Bon dimanche.
Bonjour, bonjour.
C'est encore très beau chez nous. La piscine est magnifique, mais elle est un peu fraîche. Moi, je ne suis pas allé à ce que là, elle est un peu fraîche. Hein. C'est 26 degrés. On était habitué à plus que ça. Hein. Bien, on va faire une lecture ce matin dans Matthieu chapitre 16, verset 24, pour commencer. Matthieu 16, 24. Jésus parle et il dit à ses disciples, donc à nous aussi, puisque nous nous disciplinons à suivre ses commandements, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Amen. Alors, j'ai lu une définition du mot « courage » qui m'a bien plu. Et je voudrais partager ça avec vous. Je vous le lis. « La personne courageuse, c'est celle qui arrive à vaincre sa répulsion instinctive devant l'effort et la souffrance. » Je trouve que c'est une très bonne définition. Elle n'est pas complète, mais je trouve qu'elle est une bonne définition. J'ai trouvé ça tellement vrai, j'ai pensé à Jésus qui nous dit de porter notre croix. Et souvent, quand on entend les chrétiens parler, on voit qu'ils se trompent à ce sujet. On pense que celui ou celle qui souffre patiemment d'une maladie a bien du courage et il porte sa croix. Ben, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Moi, j'ai souvent été malade, et je peux vous dire, c'est pas ça, porter sa croix. Porter sa croix, c'est prendre ce qui, prendre sur soi ce qui nous emmène à la crucifixion. C'est pas avoir une maladie. Jésus lui dit, portez sa croix. Celui qui renonce à sa vie, celui qui donnera sa vie, celui qui voudra la sauver, la perdra, celui qui va. Quand on est malade, dans la maladie, on est bien obligé de la vivre, il nous tombe dessus comme ça sans crier gare, et il nous est dit dans la Bible de se battre contre elle. Si la maladie c'était la croix qu'on doit porter, on ne devrait pas s'en débarrasser, on devrait dire « Oh, merci Seigneur, j'ai une croix à porter, c'est merveilleux. » Donc ce n'est pas du courage de porter cette maladie. C'est pas du courage, c'est une chose qui vous tombe dessus et ce n'est pas une difficulté que vous allez combattre par choix. La personne courageuse, c'est une personne qui va au combat alors que rien n'y oblige. Qui est courageux? Celui ou celle qui pourrait se permettre d'être lâche. Or, quand une maladie vous tombe dessus, vous n'êtes pas lâche, vous n'avez pas le choix. Vous la combattez. Vous ne vous laissez pas faire. Vous ne baissez pas les bras, vous ne lâchez pas les bonnes solutions parce que vous êtes obligé, vous ne voulez pas rester malade. Quand une maladie vous tombe dessus, vous faites ce qu'il faut pour la vaincre, pour vous en débarrasser. Si la maladie c'était la croix qu'on doit porter, ben, on ne devrait pas s'en débarrasser, je le répète. Premièrement, quand on tombe malade, on garde la foi en Dieu qui guérit, même si des fois c'est un peu long. On garde la foi, mais ce n'est pas du courage, c'est la foi, c'est normal. Quand on est malade, on suit les conseils du médecin, et si on trouve qu'il est un peu louche, ben on va en voir un deuxième qui nous dit non, c'est pas ça qu'il faut faire, attention. On prend des médicaments, on essaie de pas trop enquiquiner notre entourage avec notre maladie en en parlant tout le temps. On reste positif le plus possible. C'est pas toujours facile, mais on peut y arriver, on y arrive, on essaye. On n'est pas habitué à être malade. Et on apprend des trucs pendant qu'on est malade. Le vrai courage, c'est le fait, c'est de faire sien un combat qui n'est pas obligatoire pour nous personnellement. C'est cette liberté qui fait la dignité et la grandeur du courage. On est libre devant une situation de faire ou pas faire. Cela dit, pour qu'on puisse parler de courage, il faut que l'acte qu'on pose soit un acte possible et utile. Si c'est inutile, c'est pas du courage. Si c'est pas possible, c'est de la témérité idiote. Je vous donne un exemple. On va arriver bientôt en hiver. On a encore l'automne, il y a encore l'automne avant. Hein. Mais ici, on ne sait jamais parce qu'il fait toujours tellement beau, on ne sait plus où on en est là. On va bientôt arriver en hiver et on va entendre parler de skieurs qui vont s'aventurer sur des tracés hors piste chaque année. Et ils y vont le jour où la météo a bien averti qu'il y avait des risques d'avalanche. Ces skieurs-là ne font pas preuve de courage, mais d'inconscience coupable. Parce que s'ils n'engageaient que leur propre vie, mais ils engagent aussi la vie de ceux qui vont aller essayer de les sauver après. Hein? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas des courageux, c'est de la bêtise pure. Le courage prend une dimension plus grande lorsqu'il s'agit d'actes désintéressés, utiles mais désintéressés. Certains sont très courageux quand il s'agit de défendre leurs propres intérêts, mais alors ils ne lèveront pas le petit doigt quand il s'agit de l'intérêt des autres. Alors, est-ce qu'ils ont du courage quand ils s'occupent de leurs propres affaires? Non, simplement ils sont déterminés à gagner. Je vous parle du courage de Jésus maintenant. Le courage de Jésus, parce que Jésus est notre modèle. Un jour de Pâques, il est monté à Jérusalem avec tous les pèlerins. Il y avait une foule nombreuse d'Israélites venus du monde entier pour adorer l'Éternel. Et c'est un très grand jour pour les sacrificateurs. C'était un très grand jour aussi pour les vendeurs de moutons et de pigeons. C'était aussi un très grand jour pour les changeurs de monnaie qui convertissaient la monnaie en monnaie sacrée, la seule autorisée pour les offrandes et les transactions du temple. Intéressant, hein? C'est un grand jour pour eux. Jésus est venu avec tous ses pèlerins, il était là, et puis il regardait tout ça. Il entendait le cri des marchands, il sentait les odeurs, ça devait puer là-dedans. Les animaux, les gens qui... Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de déodorant à l'époque. Hein. La chaleur, ça. Il entendait le ricanement des changeurs, il entendait les plaintes des pèlerins qui disaient quand même, ils exagèrent, l'année passée c'était moins cher. Mais... Que faire contre tous ces prêtres qui favorisaient ce commerce, contre tous contre toute cette police, parce qu'il y avait une police du temple qui protégeait ce marché bruyant et désordonné, plus ou moins désordonné. Les obstacles à toute intervention étaient tellement importantes et elles existaient réellement, extérieurement. Il y avait donc le nombre de marchands, il y en avait beaucoup. Il y avait les banquiers qui étaient là. Il y avait les gardes bien armés. Il y avait les prêtres, il y avait les lévites qui défendaient leurs intérêts, qui regardaient bien tout ce qui se passait. C'était intéressant, là. Hein. Obstacle extérieur, intérieur aussi, il y avait... Une organisation, c'était une organisation séculaire. Il y avait des gens considérés, des gens influents. Il n'allait pas, Jésus n'allait pas se mettre à gueuler contre des sales gamins, non. C'était des gens qui étaient infiniment respectables, n'est-ce pas? Enfin, ils s'étaient autoproclamés, parce que, en fait, ils n'étaient pas très 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 nets, hein. Obligation, il n'y avait pas d'obligation, je n'étais pas obligé, il aurait très bien pu dire bon. Aucune obligation. Les milieux de juifs pieux acceptaient cet état de choses. C'était voilà, c'est comme ça. Ils venaient de loin même pour ça. Ils payaient l'hôtel, le voyage. Jésus, il ramasse une corde qui traînait là, enfin plusieurs cordes. C'était certainement des cordes qui avaient servi à attacher des moutons pour les emmener jusque-là afin de les vendre et puis d'aller les égorger un peu plus loin. Et puis il tresse avec ses cordes un fouet et puis il fonce au milieu de la mêlée qui pue la sueur humaine et la merde des animaux. Il fonce là au milieu, il renverse les tables des changeurs. La monnaie se met à rouler par terre, les gens, ils restent pas là en disant « Oh !» Non, pensez, ils se mettent à quatre pattes en gueulant, qui c'est qui va pouvoir en ramasser le plus possible, un désordre, quelque chose de formidable. Et Jésus frappe les marchands, qui juste avant brutalisaient les animaux innocents, et il crie avec autorité « Ôtez-moi tout ça d'ici !» Et il fait place nette, c'est-à-dire personne le seconde, personne, même si d'ici il ne bouge pas, dangereux. La foule des pèlerins s'est contentée de l'approuver intérieurement. Alors ça, vous avez tellement de chrétiens qui approuvent intérieurement, hein. Mais, et puis alors, ou alors, je vous soutiens moralement, ou alors je vous soutiens dans la prière. Ça fait une belle jambe, hein. C'est gentil déjà, mais bon, pas très courageux. Les gardiens du temple arrivent et Jésus se trouve seul face à eux. Et les gardiens lui disent de quel droit t'agis comme ça? Ils lui ont pas dit ça. Oh, mais comment ça se fait que tu oses faire une chose? Non, ça gueulait là-dedans, hein. Et Jésus répond, il est écrit. On appellera ma maison une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de brigands. On trouve ça dans Matthieu 21, 13, 23. Vous avez fait de ma maison un repère de brigands. Ça n'a pas beaucoup changé, hein? Voilà un acte de courage, un acte libre, un acte utile, un acte désintéressé, avec du courage physique. Avec du courage moral, Jésus, c'est du courage physique, Jésus était balèze, ne serait-ce que par son métier, charpentier, il ne pouvait pas se faire livrer le bois comme nous, on peut se faire livrer le bois, et puis il est déjà tout écarri, raboté, tout, non, il faisait tout à la main, il était balèze, il avait des gros bras, il marchait beaucoup, il faisait tout à pied, avec Michou on est allé en Israël, avec la famille à l'amont. Ben, je peux vous dire, quand on regarde sur la carte son petit pays, il fallait le faire, il fallait le traverser ce pays. Surtout que c'est plein de montagnes, de vallées, de trous, de machins. C'est grand, il faisait ça tout ça à pied, il était balèze. Courage moral pour affronter l'hostilité croissante des Juifs qui avaient déjà essayé de le ficher en bas d'une falaise. Rappelez-vous ça. Et pour braver des gens haut placés, il fallait avoir du courage. Des traditions anciennes, des institutions bien établies, des préjugés universellement admis. Hein, suivant ce que je prêche, les gens qui me disent « Oui, mais ça se fait plus, c'est fini maintenant, c'est plus le temps, c'est terminé. » Mais je rue dans les brancards, je leur dis « Non. » Il faut revenir aux Écritures, il faut faire ce que la Bible dit, il faut faire ce que Dieu dit. Oh Michel, tu nous embêtes avec ça, laisse-nous tranquille ronronner dans nos églises. Ils ne me le disent pas, mais voilà. En tout cas, ils ne changent pas beaucoup, je ne vois pas beaucoup de gens qui disent, bon, maintenant on a compris, on va venir, on va discuter, voir ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut faire pour vivre l'Évangile tel que tu nous l'enseignes. Il n'y a personne qui prend cette décision de dire, bon, écoute, on s'est mis à 4-5 chrétiens, on a discuté, on discute, voir comment est-ce qu'on, par exemple, on pourrait acheter une maison pour vivre en communauté tout près de vous. Ils font pas ça, ils disent tous « Amen !» Amen ! Amen ! Je crois que c'est pour ça que Jésus a dit que on est ses brebis, parce que « Amen !» Alors, il ose s'attaquer à des collectifs entiers. Il l'avait déjà fait, on va lire Matthieu 11, 20-24. Matthieu 11, 20-24. Écoutez un peu. Il se mit donc Jésus à reprocher aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Il leur a fait des reproches. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et Sidon, les villes étrangères, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Oula là 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 là! Qu'est-ce qu'il leur dit là? Hein? Qu'est-ce qu'il leur dit? Mettre ces villes juives sur le type même des villes corrompues comme Sodome, Tyre, Sidon, ben c'est attirer l'hostilité de ses habitants, c'est obligatoire. Le courage de Jésus. Jésus n'a pas peur de remettre en question une des vérités les plus évidentes pour tous les juifs de l'époque, la supériorité du peuple élu. Nous sommes bénéficiaires, les bénéficiaires obligés des faveurs divines. Jésus met tout ça par terre. À Nazareth, là où il a grandi. Voyez un peu ce qu'il leur a dit. Luc 4. Alors on dit toujours Jésus s'est mis en colère une fois. C'est pas vrai, il s'est mis en colère très souvent. Luc 4, 25. Jésus parle et dit, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, vers aucune ville d'Israël, ni vers aucune veuve d'Israël. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est une femme veuve de Sarepta dans le pays de Sidon, à l'étranger. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, un Syrien. Et puis, s'étant levé, ils le chassèrent de la ville, ils le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux, s'en alla. T'es bien ce qu'il leur dit. Écoutez sa parole courageuse aux pharisiens. Tous les juifs avaient un profond mépris pour les samaritains. Et il leur parle, vous connaissez tous la parabole du samaritain. Et c'est un samaritain, c'est pas un lévite, c'est pas un prêtre qui a bien agi, mais c'est un samaritain. Vous croyez qu'ils étaient contents, les lévites, les pharisiens, les religieux, vous croyez, les juifs, vous croyez qu'ils ont été contents en entendant ça? Et quoi de plus méprisable en Israël que les collecteurs d'impôts? Eh ben, c'est chez Jaché, c'est chez Jaché, essayez de le dire, c'est pas facile. Chef des collecteurs d'impôts que Jésus va loger. Luc 19, 5. Voilà. Vous croyez que ça leur a fait plaisir, vous, aux Juifs et à tout le monde? Non. c'est pas une impression, c'est une réalité. Jésus se plaît à heurter de front les idées reçues, les préjugés tenaces des gens bien pensants. Et vous voudriez que je vous passe de la pommade dans le dos? Non, je vous dirai la vérité, toujours. Même si ça vous dérange. Et puis si vous voulez pas, vous avez qu'à éteindre l'ordinateur, c'est pas plus compliqué. Mais moi, vous ne m'empêcherez pas de dire la vérité. Quand on lui a amené une femme prise en flagrant délit d'adultère, oh, formidable, ils ont trouvé une femme qui faisait l'adultère toute seule. Parce que quand on fait l'adultère, en général, il y a un homme et une femme, shabadabada, shabadabada. Ben là, non, il n'y avait qu'une femme. Ils ont pris une femme en flagrant délit d'adultère. Ils n'ont pas eu le courage ni les... d'attraper le bonhomme. Hein? Il était peut-être plus balèze que les religieux, le bonhomme. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Ben, il s'est mis du côté de la femme. Il a pris la défense de la femme. Il a humilié les accusateurs de cette femme. Vous trouvez ça dans Luc 8, 9, 11. Tout ça, c'est une accumulation. C'est une accumulation. Et dans la maison de Simon le pharisien, oh, le gentil Simon le pharisien, la vie de Jésus, et tous ses copains et ses copines, et voilà qu'il arrive une femme de mauvaise vie, et Jésus prend encore le parti de cette pécheresse. Luc 7, 40. Mais s'il était vraiment prophète, il saurait à qui il a affaire. Mais il sait à qui il a affaire. Il veut leur apprendre quelque chose. Ils ne l'apprennent pas. Et il va manger avec les collecteurs d'impôts et avec les gens de mauvaise vie. Alors j'aime autant vous dire, à table, les blagues à la bigarre, ça devait fuser. C'était pas forcément Jésus qui les racontait, mais ça ne devait pas être... Nous allons remercier le Seigneur pour le pain. Passe-moi les haricots, chère sœur bien-aimée. Non, ça devait se marrer, ça devait rigoler. Les gens étaient scandalisés. Et il dit froidement aux pharisiens, vous voyez ces gens-là, de mauvaise vie, ben ils vous devanceront dans le royaume des cieux. Matthieu 21, 31. Mais qu'est-ce qu'il cherche, Jésus? Pourquoi il fait ça? Pour secouer la fausse sécurité de ces gens imbus de leur propre justice et de la grande pureté de leur religion. Ils pensaient qu'ils avaient la seule vraie religion du monde. Vous ne connaissez pas les églises qui disent « Nous sommes la seule église de Jésus-Christ au monde ». Moi, j'en connais, hein. Alors, ils cherchent à défendre les méprisés, les calomniés à tort. Ils cassent les vieux moules dans lesquels la piété des dignitaires s'était confortablement couchée. Ils cassent les moules. Vous avez appris que... Mais moi, je vous dis que... Et bam! Vous lirez tout ça. Il secoue le formalisme dont ces gens se contentaient, puis se contentaient très bien, hein. Des ablutions sur les mains avant les repas. Bon, c'est bien se laver les mains avant le repas, mais enfin, voilà. Nettoyer le dehors de la coupe et des plats, respecter les normes fixées par les anciens au sujet des travaux interdits pendant le Shabbat. Et puis il fait ce que les autres considèrent comme scandaleux. Il opère des guérisons le jour du Shabbat. Le vilain. Et oups, il omet de jeûner les jours rituels où il faut jeûner. Ah ben j'ai oublié. Ah c'est ballot, hein. Non, il n'avait pas oublié, il l'a fait exprès. Pourquoi? Pour apprendre aux gens à faire la distinction entre l'essentiel et le secondaire. Pour que les gens apprennent à faire la distinction entre le contenu et le contenant, le fond et la forme, la principale loi de Dieu, la la Bible et le Talmud. Je vais vous parler bientôt du Talmud, vous allez être écœurés. Le Talmud, c'est une loi orale qui était rajoutée par les juifs religieux. Elle était orale et du temps de Jésus, ils l'étudiaient dans la synagogue. Et encore aujourd'hui, ils l'étudient dans les synagogues. Comment on les appelle? Les écoles talmudiques. Ils étudient la Torah, c'est-à-dire les cinq livres de Moïse, et le Talmud. Mais je vais vous faire une étude sur le Talmud, vous allez être écœurés. En fait, le Talmud, c'est ce qui a inspiré les musulmans pour faire la charia. Ni plus ni moins. Il avait parfaitement conscience du prix que cette attitude, que ces attitudes lui coûteraient. Il dit, on m'insultera, on me crachera dessus, on me battra à coups de fouet, et on me mettra à mort. Il le savait. Mais ce savoir ne l'a pas empêché de suivre sa ligne de conduite. Alors la question c'est, où Jésus puisait-il un tel courage? Eh bien, dans la connaissance de la volonté de Dieu. Beaucoup de gens s'imaginent que Jésus allait prier et puis que Dieu lui disait « Aujourd'hui, à 3h30, tu vas rencontrer une bonne femme qui a mal au bras, eh ben, tu vas la guérir et puis 5h moins le quart, tu vas rencontrer un bonhomme, tu vas lui dire ci, tu vas lui dire ça. » Bien sûr, ça a dû arriver. Mais Jésus, surtout, avait lu les Écritures comme nous pouvons lire les Écritures. Et quand on lit les Écritures, on connaît la volonté de Dieu, on sait ce que Dieu veut. Il avait lu les Écritures, il savait, parce qu'il les avait lues, ce qui était vrai, ce qui était faux. Et il était dans le vrai, et il le savait. Parce qu'il savait qu'il était conforme à ce que Dieu veut. Il croit dans sa destinée. Il savait que l'Écriture parlait de lui. Nous aussi, on sait que l'Écriture parle de nous. Est-ce que vous savez que l'Écriture parle de vous? Il croit qu'il est dans les mains de Dieu. Psaume 31, verset 16. Et ce courage, puisé dans les Écritures, il l'a enseigné à ses disciples, qui n'étaient pas courageux au départ, hein. Et il nous l'enseigne à nous aujourd'hui aussi. Regardons Luc 12, 4. Luc 12, 4. Qu'est-ce qu'il dit là? Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Alors les gens pensent, ah, il faut craindre le diable. Non, c'est pas le diable. C'est Dieu que vous devez craindre, parce que après vous avoir fait mourir, il peut vous jeter dans la géhenne. C'est pas le diable qui va vous jeter dans la géhenne. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu, et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Et je vous dis que quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. C'est ça, porter sa croix. C'est avoir le courage de vivre et de parler l'évangile de Jésus-Christ, de dire la vérité. Pas seulement dans les petits coins tranquilles où on est entre nous, mais surtout là où c'est pas correct de le faire, devant les dignitaires religieux qui croient qu'ils sont mieux que les autres. Il l'enseigne à ses disciples et nous l'enseigne à nous, et je vais terminer ma prédication en vous disant cela. Jésus a dit un jour, n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Si on marche pendant qu'il fait jour, on ne risque pas de se cogner contre un obstacle, parce qu'on y voit clair. Jean 11, 9. Si vous y voyez pas clair, c'est que vous marchez dans les ténèbres. Si vous ne savez pas ce que Dieu veut de votre vie, c'est parce que vous marchez dans les ténèbres. Et si vous marchez dans les ténèbres, c'est parce que vous ne lisez pas les Écritures. Et vous ne lisez pas les Écritures, pourquoi? Parce que vous regardez les feux de l'amour, parce que vous êtes sur votre téléphone en train de répondre à des âneries et des machins. Lisez les Saintes Écritures pour savoir ce que Dieu veut de vous. Marchez dans la lumière et vous ne heurterez pas des obstacles. Bon, c'est vrai que vous aurez pour fin les persécutions, mais aussi la vie éternelle. Mais Jésus vous a averti, on le sait, on doit porter notre croix, c'est-à-dire qu'on doit prendre sur nous ce qui nous mène à Golgotha, à notre Golgotha, à notre propre mort, au fait d'être rejeté, au fait d'être blessé, tué par les impies. Est-ce que vous m'avez bien saisi ce matin? Porter sa croix, c'est pas supporter sa belle-mère. Porter sa croix, c'est pas supporter une maladie. Porter sa croix, c'est faire ce que Jésus veut que nous fassions, que nous soyons des témoins de la vérité et de l'amour. Au nom de Jésus, j'ai dit amen. Merci Seigneur de bénir chacun et chacune. Que ton nom soit glorifié dans leur vie. Amen. Amen. Au revoir. Thank you.